tout le monde. Alors, comme ça faisait longtemps, je me suis dit que j'allais ressortir ma machine à observer l'avenir. Et miracle, elle fonctionne encore.
Formidable.
Du coup, j'ai été voir ce qui allait se passer le lundi 10 juin 2024. Ce matin, que va-t-il se passer au lendemain des élections du 9 juin? Lundi 10 juin 2024, la Belgique se réveille groggy après une éprouvante journée électorale et une longue nuit de dépouillement. Ce matin-là, malgré le généreux soleil qui réchauffe le petit royaume de ses rayons printaniers, un frisson glacé parcourt l'échine du monde politique. Dans cette phrase, j'ai voulu battre le record du monde de clichés littéraires en moins de 100 caractères et je crois que j'y suis parvenu. Bref, je reprends. Lundi 10 juin, c'est la stupeur. Il est d'usage que les sondages ne voient rien venir, mais cette fois, leur erreur est d'une ampleur jamais vue auparavant. Les candidats attendus, les vedettes politiques habituelles ont totalement contre-performé. Quel que soit le parti, les résultats sont catastrophiques. Par exemple, Paul Magnette a fait 0 voix, ce qui laisse penser qu'il n'a même pas voté pour lui. Saluons sa modestie au passage. Idem pour Mathieu Michel, qui affirme pourtant avoir voté pour lui, mais avoir rencontré des difficultés devant la complexité du vote électronique. Elio Hiropo, 2 voix. Cela dit, une enquête est en cours car à la vision d'images de caméras de surveillance, on le soupçonne d'être venu voter pour lui-même une seconde fois, déguisé en Lady Diana. Situation inédite, Charles Michel n'a qu'une demi-voix, probablement à l'image de sa stature d'homme d'État. Par contre, certains et certaines ont fait des résultats qui dépassent de très loin tous les pronostics. Ce sont les fameux lapins blancs, c'est-à-dire les candidats et candidates plus ou moins connus que les partis ont été cherchés dans la société civile pour booster les listes. Ils ont fonctionné au-delà de toutes les espérances. Écoutez plutôt, Marc Isaïe, 2 millions de voix de préférence. Julie Tathon, 7 millions. Adjel Habib, 13 millions. Et il n'y a pas que les listes MR. Sur les listes PS, les frères Borlée font un excellent résultat. 20 secondes, 3 centièmes sur 200 mètres. Et tandis que chez les engagés, John Sourire, le petit-fils caché de Sœur Sourire, réalise le score inattendu de 15 millions de voix. Pour Écolo, Lara Fabian en fait 16 millions. Pour reprendre les termes de Béatrice Delvaux dans son édito du soir, c'est un chamboulement complet de l'échiquier politique. Parce que sur les listes régionales, c'est la même chose. À la région Wallonne, soulignons, sur les listes Défi, la très belle performance de Beyoncé, devenue belge pour l'occasion, parce que, je la cite, « La Californie, c'est bien un moment, mais rien ne vaut les fagnes ». Ainsi que pour les engagés, la percée significative d'Usain Bolt, le célèbre coureur, lui aussi devenu belge et qui dira « C'est le discours de Maxime Prévost au Fête de Wallonie qui m'a convaincu ». Dans les semaines qui suivent les élections, la plus grande confusion règne à tous les niveaux de pouvoir. Profitant du chaos ambiant et sans que personne ne le voie, Georges-Louis Boucher réalise alors son rêve. Il devient Premier ministre le 21 juin et tel Amenophis II accédant enfin au trône d'Égypte, il écarte tous ceux qui pourraient lui faire de l'ombre. À ce titre, le 4 juillet, il parvient même à écarter définitivement le clan Michel, dont il occupe dès le 6 le château de Jordogne. La rumeur veut qu'il dorme dans le lit de Michel Père et que par cruauté, il ait gardé Mathieu à son service comme palefrenier de ses écuries. D'ailleurs, Georges-Louis n'est pas que Premier ministre, il est également président du Conseil européen, commissaire européen chargé des droits de l'homme et du compost, bourgmestre de Monstre, échevin des lacets et tirettes à la ville de Jean Blou, gardien empêché dans l'équipe du Sporting de Charleroi, rédacteur en chef de la cellule Info de la Première, chef de rayon aura au Cora de Châtelineau et bien entendu, sénateur coopté grâce au mécanisme de l'apparentement qui permet à l'élu d'un groupe linguistique minoritaire de demander à la majorité simple du dit groupe que l'un de ses membres soit sénateur sur une chaise libre si l'huissier de la porte arrière s'appelle Jean-Marc. Dès son entrée en fonction, le gouvernement est baptisé gouvernement Roland-Garros parce que c'est comme à Roland-Garros, on ne s'intéresse plus aux vedettes qui se trouvent dans les gradins, on s'intéresse plus aux vedettes qui se trouvent dans les gradins qu'à ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, justement, dès les premiers jours, chaque ministre vient défendre ce qui lui tient à cœur. Marc Isaïe, vice-premier et ministre de la neige fondante, promet de se battre jusqu'au bout pour une grande réforme des tailles de chaussures. Il y en a marre des 43 qui taillent petit, dira-t-il en conférence de presse. Julie Tathon, vice-première et ministre des mauvaises herbes, assure qu'elle donnera tout pour faire passer sa loi anti-bouloche sur les pulls en laine. Et Lara Fabian, ministre des portes qui claquent, s'engage corps et âme pour un refinancement du secteur du pneu été. Les mois passent et le gouvernement Roland-Garros peine à obtenir de véritables résultats. Marc Isaïe menace de quitter le gouvernement si les propositions de Julie Tathon sont validées. Julie Tathon bloque habilement toutes les motions avancées par Lara Fabian. Les frères Borlée freinent des quatre fers faire devant les réformes proposées par Usain Bolt. En réalité, il n'y a pas vraiment de différence avec le gouvernement Vivaldi, dont, souvenez-vous, la principale caractéristique était l'illusion d'optique faisant croire au mouvement d'un corps immobile. Finalement, le 14 septembre, au sortir d'un été aussi brûlant qu'inutile, et tel Charles Michel avant lui, Georges-Louis Boucher démissionne avant le terme de son mandat, non pour organiser les réunions du Conseil européen, mais pour devenir égérie Bretling, une position qui, je le cite, fera du bien à toute la Belgique à la semaine prochaine.
Le gouvernement Roland-Garros, donc mené par Georges-Louis Boucher, c'est ce que vous avez vu dans votre machine à prédire l'avenir, Thomas Gunzig. Georges-Louis Boucher, s'il joue un jour dans une équipe de football, ce sera plutôt chez les Franc-Borin, dont il est président, et ça pas dépend. Au Sporting de Charleroi. Mais bon, peut-être que votre machine peut se tromper sur certains détails,
pas du
évidemment.
Tout.
Jamais
non.